L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi et rediffusée à 18h. Aujourd'hui, nous recevons la Corlab Eboa, deux noms qui vous parlent peut-être si vous écoutez tout le temps Radio Évasion, mais qui probablement ne vous disent rien. La Corlab, c'est une fédération de 18 radios associatives de Bretagne, dont nous faisons partie. Associatives, et tout est là, elles sont différentes des radios dites nationales ou des radios commerciales. Vous n'entendez pas de publicité chez nous. Les radios associatives, c'est tout un monde. Ce sont des médias, mais c'est bien plus que ça. Xavier Millinaire, le coordinateur de la Corlab, a mené l'enquête sur le rôle social de ces radios et il vient nous en livrer les résultats. Et puis, il y a aussi au téléphone Nicolas Milis qui, lui, coordonne la naissance de la radio qui va réunir toutes les radios de la Corlab. Elle s'appelle BOA, Bretagne On Air. Il nous racontera. Bonjour à tous les deux, déjà.
Bonjour.
Bonjour.
On va commencer, Xavier, avec toi rapidement. La Corlab, à quoi ça sert? J'ai dit un peu ce que c'était, mais quelles sont ses missions?
La Corlab, c'est un outil au service des radios associatives adhérentes. C'est un espace de dialogue, d'échange entre les salariés, les bénévoles de ces radios. Et puis, c'est un outil aussi de plaidoyer, hein, on va dire les choses clairement. C'est l'idée de défendre aussi nos outils, de défendre nos métiers, défendre nos pratiques auprès des partenaires institutionnels, auprès de nos partenaires culturels. Et puis c'est un outil d'échange de savoir-faire et de pratiques, que ce soit sur les métiers de l'animation, sur les métiers de l'éducation aux médias, sur les métiers techniques. On a tous besoin de progresser chaque jour et de confronter nos compétences avec nos pairs. Et donc la Corlab sert à ça.
C'est pas encore un organisme de formation quand même.
Non, pour ça, il y a des organismes de formation qui existent déjà et qui font très bien leur travail. Nous, on ne s'est pas positionné en tant qu'organisme de formation. On procède à l'analyse des besoins en formation au sein des équipes et on essaie de les confronter, ces besoins, avec l'offre existante. On est un bon intermédiaire, on va dire, sur le champ de la formation.
Et alors, jusqu'à présent, la Corlab ne faisait pas de radio. Chaque radio associative de la Corlab faisait un peu de la radio dans son coin. Nicolas Milis, ça va changer, ça, avec cette radio BOA, donc, qui sera une radio régionale en diffusion numérique terrestre. On dit aussi DAB+. Alors, est-ce que déjà, tu pourrais nous rappeler, Nicolas, le contexte, ce que c'est, ce DAB+, qu'est-ce que ça va changer aussi pour les radios elles-mêmes?
Ouais, je vais essayer d'être pédagogique sur la question en quelques minutes. Ce qu'il faut comprendre, c'est de revenir un petit peu à la télévision pour parler après de radio. Il y a 15 ans, la télévision analogique, où on n'avait que 6 chaînes, de TF1 à M6, devient la TNT, la télévision numérique terrestre. Du coup, il a fallu à l'époque avoir un petit boîtier pour ajouter à sa télévision pour décoder cette nouvelle télévision, la TNT, ce qui a permis d'avoir plus de chaînes de télévision, une meilleure qualité d'image et de son. Et bien aujourd'hui, en fait, la radio connaît exactement la même révolution technologique. On se dit que là, les fréquences analogiques de la FM, aujourd'hui Radio Évasion, vous l'écoutez en FM, vont laisser progressivement la place aux fréquences radio numériques. Alors ces fréquences radio numériques s'appellent en fait le DAB+. Alors DAB+, c'est pas un distributeur d'argent, c'est pas non plus le geste que fait Usain Bolt avec ses bras, c'est Digital Audio Broadcasting, c'est une norme en fait de diffusion. Et le DAB+, la radio numérique terrestre, c'est accessible en hertzien, ça c'est important de le dire, parce que du coup, ça permet la gratuité pour les auditeurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être abonné à un fournisseur d'accès Internet pour écouter ces radios en DAB+. Et puis, ces nouveaux récepteurs, il va falloir par contre s'équiper de nouveaux récepteurs radio pour décoder le DAB+. Ces récepteurs aujourd'hui sur le marché coûtent 25€ pour un récepteur compatible DAB+ domestique, et puis pour les autoradios, il faut compter à peu près 50€. Et en tout cas, ce que va permettre cette radio numérique terrestre, c'est d'avoir une offre de radio beaucoup plus diversifiée. Pour comprendre, sur la FM, eh bien, une fréquence FM telle que la vôtre à Évasion, eh bien, ça permet juste d'avoir une radio. Eh bien, avec une fréquence numérique sur la radio numérique terrestre, sur le DAB+, on peut loger 13 radios. Donc c'est vraiment permettre aux éditeurs d'avoir d'avoir beaucoup plus d'offres de radio, de faire de la place en fait sur la fréquence pour pouvoir loger beaucoup plus de radio. Puis ça va être beaucoup plus qualitatif, puisque c'est du numérique, on va avoir l'impression d'entendre un compact disque en termes de qualité quand on va écouter la radio. Il n'y aura pas de grésillement, à la différence de l'AFM. Vous savez, quand vous écartez de la zone d'émetteur de la radio, ben vous avez souvent ce qu'on appelle de la friture, des grésillements. Bon, ben là, c'est clair, si vous quittez la zone de diffusion en DAB+, eh bien, vous n'entendrez plus la radio. Alors, ça a son avantage, c'est le confort d'écoute, mais effectivement, si vous quittez la zone de diffusion, ben plus de radio.
Alors, voilà. Zone, justement, c'est important. Là, la zone, enfin, tout le territoire français se couvre peu à peu. Hein, je pense pas qu'il soit déjà tout entièrement couvert par le DAB+.
Non, loin de là.
Mais en tout cas, la région Bretagne va être entièrement couverte, c'est ça?
Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui donc gère les fréquences en Bretagne mais partout en France, a proposé deux types de fréquences en DAB+, en radio numérique terrestre. Il y a ce qu'on appelle les fréquences dites locales. Ça veut dire que dans votre zone de diffusion à Radio Évasion, on va vous proposer de pouvoir émettre sur uniquement la zone de diffusion que vous avez déjà en FM, mais en DAB+, en radio numérique terrestre. Et puis, il y a une deuxième type de fréquences qui sont des fréquences dites régionales, ils les appellent aussi fréquences dites étendues, ce qui va permettre en fait à des projets existants ou de nouveaux projets, notamment associatifs, de pouvoir se permettre de diffuser sur l'ensemble du territoire breton, sur toute la Bretagne.
Et c'est là que BOA intervient, enfin va naître. Alors BOA, c'est la radio de la Corlab, on peut dire ça, enfin...
Ah ben c'est très lié à la Corlab et c'est très lié aux radios adhérentes de la Corlab. Elles sont au nombre de 16, en tout cas qui ont rejoint le projet Radio BOA. Et puis c'est une initiative lancée effectivement par la coordination des radios locales associatives de Bretagne, la Corlab. L'idée étant, c'est que quand ces fréquences, cette proposition de fréquences régionales sont arrivées, permettant donc d'émettre sur toute la Bretagne, eh bien, on s'est dit à la Corlab que c'était pas possible de ne pas avoir de radio associative, la voix associative de nos radios sur ces fréquences. C'était un petit peu dommage de se dire, ben en fait, voilà, une nouvelle technologie qui va permettre effectivement d'avoir une meilleure qualité de son, d'avoir un rayonnement territorial plus ample, et de ne pas entendre la voix associative et de n'avoir finalement que des radios privées, commerciales et des radios de réseaux nationaux. Donc c'est l'idée vraiment venue de là, de se positionner sur cette fréquence régionale, c'est de faire en sorte que la voix des radios associatives soit bien présente et donc de prendre le wagon en marche tant qu'il est encore temps de le prendre.
Et donc ce sera la seule associative en DAB+ régionale, BOA?
Non, il y a un deuxième projet qui est celui de RCF, RCF Bretagne, RCF qui émet déjà en FM sur différents lieux, sur différents sites bretons, qui ont eux aussi, alors un peu différemment de notre projet, cette ambition également de produire et de proposer un programme régional à leurs auditeurs.
Alors BOA, ça sera qu'est-ce qu'on entendra? Enfin, comment est-ce qu'elle va fonctionner? Est-ce qu'il y a un salarié, c'est toi, hein, Nicolas Milis, mais est-ce qu'il y en aura d'autres spécifiquement? Il y aura des programmes spécifiques ou est-ce que ça sera l'agrégation des programmes produits par les radios associatives de la Corlab?
Alors, pour bien comprendre, Radio BOA va déjà s'appuyer en grande partie sur les programmes radiophoniques qui sont produits localement par les radios partenaires, par les radios adhérentes associatives comme Radio Évasion, mais il y en a 15 autres qui vont aussi permettre de remonter les programmes, leurs meilleurs programmes dans notre ligne éditoriale. Et puis Radio BOA va également produire elle-même des programmes à vocation régionale et locale. On va s'appuyer sur ce qu'on appelle un peu les têtes de réseau régionales, de ce que sont l'émergence culturelle et musicale, de ce que sont aussi l'expression des langues de Bretagne, le breton et le gallo. Et puis également, il y a un grand item sur l'innovation sociale et la transition écologique, des thématiques extrêmement importantes pour notre avenir. Et là-dessus aussi, Radio BOA va s'appuyer sur en fait les organismes régionaux qui travaillent sur ces questions-là pour fabriquer elles-mêmes du programme. Et puis il y a un troisième aspect qui est le fait de favoriser aussi le fait que les radios locales puissent travailler ensemble, puissent par exemple proposer des plateaux communs sur l'antenne de Radio Bois.
Est-ce qu'on a une idée de quand est-ce qu'elle commencera à émettre en DAB+, Radio Boa ?
Alors, on aurait aimé qu'elle émette déjà en 2022, mais beaucoup de retard est pris aujourd'hui, notamment du fait du Conseil supérieur audiovisuel, qui s'appelle aujourd'hui l'ARCOM. Il y a beaucoup de retard à l'allumage pour effectivement lancer enfin cette radio numérique terrestre en Bretagne. Comme tu le disais, Véronique, elle est déjà lancée à d'autres endroits en France, notamment ce qu'on appelle les multiplexes nationaux sur l'axe Paris-Lyon-Marseille. On peut, sur l'autoroute qui relie Paris à Marseille, effectivement entendre déjà le DAB+. C'est le cas également dans la région Pays de la Loire, puisque c'est la Loire-Atlantique était aussi précurseur sur le DAB+. On l'entend également à Bordeaux et en Bretagne, ce ne sera pas avant 2023. Premier semestre 2023 selon les dernières estimations. Donc il va falloir un petit peu encore patienter.
Mais en attendant, il y aura Boa au moins sur le web, quoi. Enfin, web radio, on va dire.
Justement, oui, effectivement, ce qu'on imagine, c'est lancer déjà la diffusion web. On est en train d'imaginer un site web qui réunirait les 16 radios et Radio Boa, qui permettrait d'atteindre les flux streaming, c'est-à-dire l'écoute internet des 16 radios et de Radio Boa, et puis également l'offre de podcast qui va avec.
Bon, on suivra ça. Merci, Nicolas. Alors, Xavier Milliner, la Corlab, donc, ne fait pas encore tout à fait de la radio, mais en attendant, elle fait de la recherche. Et en fait, on peut parler de recherche, hein, c'est ça, cette étude sur l'utilité sociale des radios. Déjà, pourquoi cette étude ?
Alors c'est bien un projet de recherche, disons qu'on n'est pas dans la recherche académique ou scientifique à proprement dit, c'est un projet de recherche partagé qui a été conduit par 7 radios adhérentes. Donc moi j'ai eu l'honneur ou la chance d'être l'animateur de ce travail-là, mais ce sont surtout les investissements de 7 radios adhérentes qui ont produit cette ressource. Pourquoi ce travail ? On a le sentiment au sein des radios adhérentes à la Corlab, que notre travail dépasse la seule mesure de l'audience. Et évidemment, c'est un critère important.
Ouais, mais on peut pas tout le faire, là, parce que ça coûte cher.
Voilà, il y a un protocole en fait établi par Médiamétrie qui ne correspond pas forcément, en plus, à nos outils de travail, à nos radios, qui n'ont pas des procédures assez fiables pour qu'on puisse mesurer notre audience. Et puis surtout, on considère que c'est pas l'alpha et l'oméga de notre travail, puisqu'une radio, ce sont évidemment la production de programmes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais ce sont aussi un tas d'autres activités hors les murs, ce sont l'animation d'une vie associative, et donc en cela, l'audience ne permet pas de mesurer tout ce qu'on fait et tout ce qui constitue une journée de travail au sein d'une radio comme Radio Évasion. Donc c'était aussi pour avoir une lecture un peu plus à 360 degrés de nos activités qu'on a initié ce travail.
Et puis pour convaincre les décideurs de notre importance, parce que c'est vrai que si le DAB+, enfin le numérique dont on a parlé, se développe, il y a des pays qui ont supprimé la FM. Ce qui veut dire que les radios de proximité, en fait, peuvent peut-être s'inquiéter pour leur avenir. Enfin, en tout cas, il faut qu'elles prouvent qu'elles sont très utiles, je suppose.
Oui, il y a un travail de plaidoyer. C'est une mission qui est confiée à la Corlab, c'est de conduire du plaidoyer pour défendre l'intérêt et la place des radios associatives dans l'écosystème culturel, médiatique, bretons et français. On est dans un environnement toujours insécurisé, on va dire, hein, comme beaucoup d'acteurs de la culture. Ben voilà, on dépend aussi de politiques publiques, et si on réaffirme pas notre rôle, notre place et les différents champs sur lesquels on intervient, on s'expose parfois à des décisions et des arbitrages délicats. Donc c'est aussi un travail mené par anticipation pour que dans le cadre du la redéfinition du paysage radiophonique, les radios associatives et 40 ans d'histoire de radios associatives ne soient pas mises de côté.
Ouais, parce qu'il faut rappeler aux auditrices et auditeurs qu'en fait, les radios associatives sont subventionnées par le ministère, par l'État, par le ministère de la Culture. Donc, on en dépend quand même beaucoup. Et donc, c'est vrai que, voilà, parce qu'on est considéré comme importante. Alors, cette enquête, elle fait 45 pages. Donc, les 7 radios, on a dit, il y a 780 personnes qui ont participé. Donc, des bénévoles des radios, des salariés, des partenaires. Parmi les résultats, donc on savait, hein, mais nous sommes des médias à part. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on soit des médias à part en termes vraiment de médias de contenu, enfin, déjà ?
Ah, sur le contenu, les radios associatives ont une mission particulière, spécifique, qui est confiée par le CSA. C'est une mission de communication sociale de proximité. Alors quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, ça mérite quelques éclaircissements. Mais on est des médias à part dans le sens où on ne va pas avoir un traitement éditorial comme l'ont les grands médias nationaux, comme l'ont la presse régionale, locale, etc. Ces médias font très bien leur travail. Nous, on se dit qu'on doit tendre le micro vers d'autres sensibilités, vers peut-être d'autres porteurs de projets ou porteuses de projets. Donc on se définit aussi par la forme d'alternative qu'on défend en fait sur nos antennes. On est des médias à part aussi dans le fonctionnement de nos antennes. On ne dépend pas de la publicité, on ne procède pas à du matraquage publicitaire ou à du matraquage musical comme on peut le retrouver malheureusement sur certaines radios. Donc on se définit aussi par cette alternative musicale et cette alternative éditoriale régulière sur nos ondes.
Rien que les sujets qu'on traite sont très différents, non, de ceux qui sont traités par d'autres médias, enfin d'autres radios.
Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a des sujets comme l'innovation sociale, la transition écologique dont parlait Nicolas tout à l'heure, qui sont traités par tous les médias. La question, c'est de comment on les traite. Aujourd'hui, on ne va pas demander à une radio associative de traiter de la COP26 telle qu'elle se déroule, je ne sais plus où c'était cette année.
Oui, on n'a pas les moyens d'envoyer les gens là-bas. Hein.
Voilà, mais
envoyés spéciaux.
Mais la transition écologique, elle s'opère sur nos territoires par des engagements associatifs, par des politiques publiques qui sont mises en œuvre par des techniciens, par des élus du territoire, et c'est en cela que les radios associatives, elles, se font l'écho de ces thématiques environnementales, en tendant le micro à ceux qui le font et ceux qui l'incarnent au plus près de chez nous.
Et peut-être des traitements plus de fond et moins d'actualité, en fait, c'est peut-être comme ça qu'on pourrait résumer les choses. En tout cas, c'est ce qu'on fait dans le LEM.
Ce que vous faites sur Radio Évasion, oui, et c'est ce qu'on retrouve sur les autres radios adhérentes à la Core Lab. On a moins d'impératifs éditoriaux à chaud, comme le peuvent avoir les grands médias nationaux qui ont sous leurs yeux les dépêches AFP qui arrivent. Voilà, là, c'est des outils qu'on n'a pas en radio associative. Et nous, c'est vrai qu'on va plutôt privilégier des traitements, on va dire, tièdes ou à froid. On ne va pas forcément se référer à l'actualité de la veille ou du matin, mais essayer de traiter quelque chose sur du traitement un peu plus long. Et c'est vrai que sur les formats, l'interview que tu me proposes aujourd'hui, Véronique, par exemple, on a le temps quand même de dire les choses dans une certaine durée. On peut parfois faire des magazines d'une heure, voire de deux heures, si on est sur des thématiques plus transversales, etc. Et c'est quand même des espaces médiatiques assez rares par leur format que proposent les radios associatives. Donc ça conforte les invités aussi dans leurs engagements, ça permet la nuance et la contradiction, chose qui est parfois un peu délicate sur certains médias où le flash, les procédés d'infos chaudes et instantanées ne permettent pas d'aller sur le traitement sur le fond des sujets.
Et puis des émissions réalisées par des bénévoles aussi, des non-professionnels en fait, il y a ça aussi.
Et oui, évidemment, une radio associative, c'est une expérience médiatique collective. Il faut bien retenir cette notion-là, c'est que ce sont des habitants, des citoyens, des bénévoles qui font vivre un média. C'est-à-dire que ces collectifs se réunissent en décidant ensemble d'un portage médiatique et en donnant la voix à des bénévoles pour qu'ils puissent parler de leurs loisirs, de leurs passions, de leur vision aussi de la société, de leur expérience de vie sur le territoire. Et donc c'est en ça aussi qu'on ait des outils alternatifs, puisque ce sont les citoyens eux-mêmes qui prennent la parole et qui conduisent le portage médiatique. C'est quand même, ça n'existe pas dans d'autres domaines de la presse, et c'est important de rappeler l'importance de ces outils démocratiques à l'aune quand même d'une concentration des médias dans le paysage audiovisuel. Cette rareté doit être absolument défendue comme vraiment un espace de respiration démocratique aussi à l'échelle des territoires.
Et d'expression, et de davantage, c'est un lien, puisque ce sont des associations, les radios associatives, ça c'est le versant. Alors quel type d'association, quels sont est-ce qu'on sait un peu le profil des adhérents, en tout cas en Bretagne, pour ce qui concerne cette enquête sur l'utilité sociale des radios associatives, qui est-ce qui adhère, et aussi la gouvernance de ces associations, c'est quoi en général?
Alors moi je représente une fédération de 18 radios qui sont toutes distinctes, déjà par leur intention éditoriale. On va retrouver des radios musicales, des radios étudiantes, des radios qui vont défendre la pratique de la langue bretonne ou de la langue galaise, d'autres radios plus généralistes, ou des radios qui sont adossées aussi à une intention confessionnelle, si on prend RCF par exemple. Donc difficile de définir un fonctionnement générique pour toutes ces radios, mais néanmoins le fonctionnement associatif fait que ce sont souvent des conseils d'administration élus, c'est-à-dire que ce sont des bénévoles qui prennent les décisions au sein des radios. Donc la moyenne des bénévoles au sein des radios de la Core Lab, on est sur une vingtaine globalement, mais ça peut atteindre plus de centaines de bénévoles pour les radios étudiantes, avec un renouvellement important en plus dans ces radios, avec le renouvellement du public étudiant chaque année sur les métropoles universitaires de Rennes et de Brest. Et dans le fonctionnement, donc ce sont un CA souverain, souvent conseil d'administration souverain, qui prend les décisions, et avec
en gouvernance partagée. Enfin, est-ce que s'il y a des coprésidences comme Radio Évasion, c'est assez répandu ou on est encore un peu unique?
Je pense que c'est encore un peu unique, même si au sein de la Gorlab, j'entends que plus en plus de radios souhaitent plutôt aller vers ces coprésidences paritaires, mixtes, hommes-femmes notamment. Mais dans beaucoup de radios, la fonction de la présidence est incarnée aussi parfois par les personnalités qui sont là depuis un moment. Mais c'est important de le dire parce que ce sont des personnes qui ont beaucoup milité aussi pour la radio il y a 30, 40 ans.
Oui, les radios associatives ont fêté leurs 40 ans cette année, enfin en 2021 en tout cas.
Et donc, pour certains projets de radio, ce sont des figures importantes et qui en tant que bénévoles, ont beaucoup, beaucoup fait aussi pour notre secteur.
Et ce sont des radios associatives, donc des associations, des lieux de rencontre, de créativité. Bon, même si avec la pandémie, c'était peut-être un peu moins vrai, les gens se sont un peu moins croisés dans ces lieux. Et ce sont, tu l'évoquais tout à l'heure aussi, des lieux d'apprentissage. Alors, on ne va pas jusqu'à être des organismes de formation, quoique ça arrive aussi, mais...
Des lieux d'apprentissage, puisque déjà les radios vont former leurs bénévoles. Donc forcément, quand on accompagne un bénévole sur son projet d'émission, il y a tout un apprentissage de la technique, du micro, pour poser sa voix, etc. Donc ça, c'est la formation permanente telle qu'elle s'incarne dans les radios associatives. Et pour beaucoup de radios associatives adhérentes à la Core Lab, l'apprentissage, maintenant, ce sont aussi la conduite d'ateliers spécifiques hors les murs sur l'éducation aux médias. Il y a une commande sociétale très très forte autour de ces questions depuis plusieurs années.
C'est tendance, c'est sûr.
C'est malheureusement tendance.
C'est utile, hein, de toute façon.
Donc, depuis les attentats de Charlie Hebdo, depuis la prolifération des réseaux sociaux, il y a un besoin clair, hein, clairement, hein, sur l'éducation aux médias. Et nos outils, nos radios, sont de bons moyens justement de se faire une idée du fonctionnement médiatique, de prendre la parole. Et donc ces espaces d'apprentissage, ils s'incarnent par un tas de projets menés chaque année par les radios, que ce soit avec des lycées, des collèges, mais aussi en EHPAD. Donc on travaille aussi avec tout type de public, et c'est ça aussi l'élasticité, la souplesse du média radio nous permet aussi d'imaginer tout un tas d'interventions et faire du sur-mesure selon les besoins, quoi.
Oui, les ateliers radio qui sont aussi une source de revenus, hein, pour les radios, il faut le dire quand même.
En effet, ce sont des prestations rémunérées dans le cadre d'appels à projets avec les prestations conduites en direct. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment ça qui soit la motivation première des radios. C'est aussi pour nous un moyen d'aller vers les futurs auditeurs, auditrices de radio. Comme il y a eu, il y a 20 ans, des ciné-classes où on découvrait un film et on apprenait l'envers du décor du cinéma. On a fabriqué les cinéphiles d'aujourd'hui grâce à ces dispositifs-là. Nous, quelque part, c'est aussi faire la promotion de notre média, de notre travail, de la spécificité du média radio, et ainsi de faire venir peut-être de futurs bénévoles au sein de nos associations. Et on le sait par expérience que beaucoup d'élèves qu'on croise en atelier reviennent parfois le lendemain ou l'année d'après nous voir pour un projet d'émission. Donc pour nous, c'est aussi dans cet intérêt-là qu'on conduit ces ateliers.
En plus, c'est vrai que c'est avec les outils technologiques récents, ça devient quand même assez facile d'installer un studio de radio, puisque je crois que même l'éducation nationale va aider à l'installation de web radio. Donc, mais il faudra former les gens à faire de la radio.
Former les gens à faire de la radio, et puis il faut bien comprendre l'intérêt d'une diffusion sur les ondes hertziennes, en FM ou en DAB+. Nous, on voit dans notre pratique pédagogique que la promesse d'une diffusion et donc d'une écoute par le grand public, c'est un procédé pédagogique qui a un intérêt majeur, puisque ça vient sacraliser l'acte de radio, si je puis me permettre de parler ainsi. On a la possibilité de se faire entendre par le grand public, par sa famille, par ses amis, ses voisins. Et donc cette diffusion sur les ondes, c'est autre chose. C'est un autre sel qu'une seule diffusion sur le web.
Il y a eu comme un filtre, une sacralisation sans doute. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur l'utilité individuelle et collective des radios associatives ?
Disons en conclusion que ce sont des espaces où on vit une expérience partagée de radio. Je disais tout à l'heure, on va faire une œuvre collective en définissant ensemble un projet associatif, en définissant ensemble une programmation éditoriale. Une expérience partagée de son territoire. On dit bien des radios locales de proximité. Ici, on est au Fou et on parle de ce qui se passe sur la presqu'île de Crozon, sur le pays de Brest, pays de Quimper. Voilà, on vit une expérience partagée du territoire et ça, c'est assez rare quand même dans le paysage médiatique. Donc il y a ça. Et on vit une expérience partagée de nos loisirs, de la culture et des arts. Donc on est des radios où on diffuse un tas d'émissions à caractère culturel, un tas d'émissions à caractère musical, des programmations musicales hyper spécialisées, hyper pointues. Donc maintenons, défendons et œuvrons pour ces lieux d'expérience partagée.
Et lisons le rapport qu'on peut trouver sur le site internet de la CORLAB. CORLAB, ça s'écrit CORLAB, très simplement. Merci Xavier Millinaire.
Avec plaisir, merci.